Eh bien, bonjour à tous, je vous souhaite un excellent sabbat. D'ici quelques jours, la plus grande partie du monde célébrera le jour de l'an, ce qu'on appelle en France la Saint-Sylvestre, le premier jour d'une nouvelle année. En Occident, il est de coutume de fêter le nouvel an par un banquet la veille, le soir du 31 décembre. C'est ça le réveillon de la Saint-Sylvestre. Ce repas comprend généralement du foie gras ou du champagne, ou tout autre plat festif et gastronomique. Au cours de celui-ci ou après, se mêlent danse et lancer de cotillons, boules et serpentins. À minuit, chacun s'embrasse, parfois sous le gui qui décore le lieu des festivités, en se souhaitant les meilleurs vœux possibles et en s'encourageant dans d'éventuelles bonnes intentions. Puis on offre les étrennes, cadeaux de nouvelle année. Ce jour est férié en France. Et il y a différentes coutumes selon les régions en France et selon le pays. À minuit, comme j'ai dit, c'est en France, on veut que les Français se fassent la bise sous une branche de gui qui le relie à la fête de Noël qui a eu lieu quelques jours auparavant. Les traditions varient de pays en pays, en Occident et dans d'autres régions du monde, mais il y a presque toujours des choses en commun également. Où est l'origine de ces choses qu'on a en commun pour la célébration de cette fête? Comment a commencé la célébration de la Saint-Sylvestre? Pourquoi le début d'une année est-il placé au milieu de l'hiver? Ça semble un drôle de moment dans l'année pour poser le jour du Nouvel An. Pourquoi au milieu d'hiver? D'où viennent les nombreuses coutumes qui s'associent à la célébration de cette fête? Le Nouvel An est souvent imaginé ou pris comme une fête chrétienne. Est-ce le cas? Et si on pense cela, pourquoi est-ce qu'on le pense? Est-ce que le fait de veiller la fin de l'année, comme on dit, pour attendre minuit le début d'une nouvelle année, est-ce que c'est biblique? Est-ce que ça vient de la Bible? Le 1er janvier est-il vraiment le début d'une nouvelle année? Et pour nous, en tant que chrétiens, nous devons nous poser la question, comme en toute chose, comment Dieu voit-il cette situation? Comment Dieu voudrait que nous le voyions? Et comment est-ce qu'il voudrait que nous agissions face à ces coutumes et à cette fête? Le Nouvel An est une des traditions les plus anciennes et les plus universelles du monde. La coutume de célébrer le Nouvel An est restée pratiquement inchangée depuis 4000 ans. Et il est facile de vérifier cela. Si vous ne croyez pas, allez en ligne, vous allez vérifier pratiquement n'importe quelle source et vous allez trouver les mêmes informations en gros. Moi, je vais citer un livre qui s'appelle « Le Nouvel An » par Théodore Gaster, qui dit ceci. « Il n'y a guère de peuple ancien ou moderne, sauvage et civilisé, qui ne l'ait observé, sous une forme ou une autre. Pourtant, aucune autre fête n'a été célébrée à tant de dates différentes ou de manière apparemment différente. Dans l'ancienne Babylone, les fêtes du Nouvel An étaient étroitement liées à la fête païenne appelée Noël aujourd'hui. Et nous connaissons les origines pas du tout chrétiennes de cette fête-là. Et en fait, c'est très lié à la célébration du Nouvel An. Alors, quand et comment ont débuté les célébrations du Nouvel An? Qui a débuté ces coutumes? Bien, je cite maintenant l'Encyclopédie Britannica. La première mention connue d'un festival du Nouvel An date d'environ 2000 ans avant notre ère, en Mésopotamie ou en Babylonie. La nouvelle année, Akitu, c'était comme ça qu'on appelait la fête, Akitu, a commencé avec la nouvelle lune après l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire à la mi-mars, et en Assyrie, avec la nouvelle lune la plus proche de l'équinoxe automnal, la mi-septembre. Pour les Égyptiens, les Phéniciens et les Perses, l'année commençait avec l'équinoxe d'automne, vers le 21 septembre, et pour les premiers Grecs, elle commençait avec le solstice d'hiver, c'est-à-dire le 21 décembre. Sur le calendrier républicain romain, l'année commençait le 1er mars. Mais après 1053 avant notre ère, la date officielle était le 1er janvier, qui s'est poursuivi dans le calendrier julien de 46 avant notre ère. C'est Jules César qui a établi le début de l'année du Nouvel An, le 1er janvier, bien avant le monde ou l'époque chrétienne. Maintenant, une autre source, un livre qui s'appelle « 4000 ans de Noël », et c'est moi qui fais la traduction, ce livre existe en anglais. L'auteur s'appelle Earl Kunt, et il a dit ceci. « La Mésopotamie est la très ancienne mère de la civilisation. Noël a commencé là-bas, il y a plus de 4000 ans, comme la fête qui renouvelait le monde pour une autre année. Les 12 jours de Noël, les feux et probablement la bûche de Noël, les cadeaux, les fêtes de village avec leurs chars de défilé, leur réjouissance et leur clownerie, les masqués qui chantent et jouent de maison en maison. » Les festins, les processions de l'église avec leur lumière et leur chant. Tout cela, et plus encore, ont commencé là-bas des siècles avant la naissance de Christ. Et ils ont célébré l'arrivée d'une nouvelle année. Pages 20 et 21. C'est ainsi que cela a commencé. La célébration du Nouvel An a commencé dans l'ancienne Babylonie, et en Mésopotamie. C'est une coutume, donc, païenne, d'adoration du soleil, antique, datant de 2000 ans avant la naissance de Jésus. Et on a ajouté ces coutumes pour célébrer la naissance de Jésus, plusieurs centaines d'années après sa mort sur terre. Les festivités du Nouvel An, qui avaient pris naissance à Babylone, se sont retrouvées en Grèce, et puis en Rome. Les Romains l'appelaient les Saturnales, en l'honneur de Saturne. Parmi eux, c'était extrêmement populaire, une période de réjouissance, de beuverie, même d'orgie, se terminant finalement par le sacrifice humain. Et cela se pratiquait chez les Romains. De nouveau, une citation de M. Kunt dans son livre « 4000 ans de Noël ». Le premier jour des Saturnales a changé à Rome. Il a commencé vers la mi-décembre et s'est poursuivi jusqu'au 1er janvier. Au milieu de cette période se trouvait le 25 décembre, quand le soleil était au plus bas. Ensuite, c'est Jules César, empereur de la Rome païenne, qui a institué la fête du Nouvel An le 1er janvier. J'ai déjà mentionné en 46 avant notre ère. En adoptant ou en imposant plutôt le calendrier julien. Il a transféré au 1er janvier toutes les coutumes, dont beaucoup licencieuses, entourant les Saturnales romaines. Donc tout ce qui avait été fait pendant les Saturnales, ça a été transféré de ses dates, ou son date initiale, sa date initiale, au 1er janvier. Et cela a continué depuis. On voit donc que cela prédate, même la date prédate l'ère chrétienne considérablement. Plutôt que de résister à l'influence des coutumes païennes, les pères de l'Église traditionnelle se sont compromis avec ces pratiques, parce que le désir de la populace de continuer dans ces fêtes et ces beuveries, etc., ce désir était très fort. Et finalement, les pères de l'Église sont pliés. Ils ont permis à ce que cela continue. Encore une fois, une citation de M. Kunt. L'Église a finalement réussi à prendre la gaieté, la verdure, les lumières et les cadeaux de Saturne et à les donner aux bébés de Bethléem. Les Romains païens sont devenus chrétiens, mais les Saturnales sont restés. Plutôt que de présenter un cadeau à Jésus-Christ le jour où il suppose à tort que c'est son anniversaire, le monde s'affaire, comme nous le savons, à échanger des cadeaux entre eux. Le Christ est non seulement le plus souvent oublié au moment de Noël, mais il n'est même pas à l'esprit pendant la fête de la Saint-Sylvestre. Et en fait, ces fêtes sont intimement liées l'une à l'autre. Au Moyen-Âge, De nombreuses anciennes coutumes romaines ont été maintenues et augmentées par des rites païens entrant par des peuples teutoniques, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de coutumes germaniques qui se sont ajoutées aux coutumes héritées de la période romaine. C'est à cette époque, au Moyen Âge, que la bûche et le gui coutumier ont été ajoutés aux festivités populaires du Nouvel An. La bûche de Noël est un vestige des feux de joie du culte du soleil, et le gui est c'est une plante parasite, comme on le sait, utilisée dans des rites druidiques comme symbole du culte de la fécondité. Le gui reste vert, même pendant tout l'hiver, et en fait on ne savait pas pourquoi à l'époque, mais c'est parce que le gui tire des aliments des arbres sur lesquels il se trouve. Et finalement, s'il y a assez de gui, ça va tuer l'arbre, ça va consommer de trop. Comme les coutumes teutoniques ont été ajoutées, la date de la célébration du Nouvel An a été temporairement modifiée au 25 mars pour coïncider avec les rites germaniques du printemps et de fertilité. Les germaniques célébraient la fête de la fertilité le 25 mars. Mais l'Église traditionnelle est intervenue. C'est en fait le pape Grégoire qui a rétabli l'ancienne date romaine, païenne, du 1er janvier. C'est un pape chrétien qui a imposé une date païenne pour le Nouvel An. Il impose à tout le monde en Occident, en l'an 1582, au moment de ces réformes du calendrier, le calendrier grégorien. Le calendrier grégorien n'a pas été accepté par tous les Européens en même temps. Ce sont des pays catholiques qui ont été obligés de l'accepter au début. Mais petit à petit, les autres pays, même les pays protestants, ont fini par l'accepter, comme ils ont accepté ce calendrier. Et si vous ne l'avez jamais regardé, l'histoire du calendrier grégorien est intéressante, parce que les pays orthodoxes et puis les pays protestants ont réchigné contre cela, ils ont résisté pendant un certain temps. En Angleterre, par exemple, pendant un temps, on parlait du calendrier, l'ancien calendrier et le nouveau calendrier, pour maintenir l'ancien tout en reconnaissant que le calendrier grégorien était en train de prendre le dessus. Tous les pays catholiques ont accepté ce changement immédiatement, je l'ai dit tout à l'heure. D'autres, comme la Suède, l'Allemagne, le Danemark et l'Angleterre, des fiefs de coutumes druidiques, ils ont finalement acquiescé à Rome jusque dans les années 1700. Il a fallu tant de temps pour que les autres acceptent le calendrier grégorien. Mais comme j'ai dit au début, la question pour nous, c'est, en tant que chrétiens, comment est-ce que Dieu voit la chose? Comment est-ce que Dieu voit la célébration de la Saint-Sylvestre? En fait, Sylvestre n'était pas vraiment un saint. Alors, déjà, il y a un problème. Mais comment est-ce que Dieu voit la célébration du Nouvel An? Eh bien, prenons Marc chapitre 7 à partir du verset 7. Marc chapitre 7 à partir du verset 7. Nous avons vu que c'est le pape qui a établi ce jour, le 1er janvier, comme Nouvel An. C'est l'Église qui a poussé donc la célébration de ce calendrier-là, le 1er janvier et la veille. Dans Marc chapitre 7, verset 7, nous lisons ceci. « C'est en vain qu'il m'honore, Jésus parle, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne laissez plus rien faire pour son père ou sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » le corban, je ne vais pas prendre le temps de m'étendre là-dessus maintenant, de l'expliquer, mais le corban, c'était un truc. C'était une façon d'esquiver une responsabilité envers ses parents. On pouvait prendre de l'argent qu'on avait ou des richesses qu'on avait, le déclarer une offrande au temple, sans le donner au temple. C'était voué au temple. On le gardait soi-même, mais imaginairement, c'était voué au temple. Et donc, on n'avait pas le droit de le donner à ses parents. Et ainsi, beaucoup de Juifs s'esquivaient d'une responsabilité envers leurs parents par ce jeu de mots, par ce truc. Et Jésus a dit que c'était condamnable. C'était condamnable de jouer avec la loi de Dieu, d'éviter ce que Dieu dit pour s'attacher à des traditions. Et déjà, on peut voir des parallèles avec ce qui se passe avec la Saint-Sylvestre. Ces mêmes rites dont nous avons parlé tout à l'heure, ces mêmes rites et coutumes pratiqués dans l'ancienne Canaan et Syrie, incluaient la fête du Nouvel An. C'est-à-dire qu'on peut remonter jusqu'en Syrie et en Canaan, les Canaanites qui étaient en Terre Sainte, dans la Terre Sainte, avant l'arrivée des Israélites, eux aussi, ils avaient des coutumes similaires. Des anciens Cananéens, les Grecs, ont appris ces mêmes rites. Et nous, beaucoup de monde célèbre des vestiges de ces rites encore aujourd'hui. Voici notre citation de l'Encyclopédia Britannica. De nombreuses coutumes des fêtes du Nouvel An notent le passage du temps avec regret et anticipation. Le bébé, en tant que symbole du Nouvel An, remonte aux anciens Grecs avec un vieil homme représentant l'année qui s'est écoulée. Ce sont des images qu'on voit encore aujourd'hui. Les Romains tiraient le nom du mois de janvier de leur dieu Janus, qui avait deux visages, l'un tourné vers l'arrière et l'autre tourné vers l'avant. La pratique de prendre des résolutions pour se débarrasser de ses mauvaises habitudes et adopter de meilleures date aussi d'Antiquité. Voici Théodore Gaster de nouveau de son livre « Le Nouvel An ». Il écrit à propos du bébé du Nouvel An. « En fait, le bébé du Nouvel An est bien plus vieux qu'il n'en a l'air. Dans la Grèce antique, il était d'usage, lors de la grande fête de Dionysos, de faire défiler un bébé bercé dans un panier de vannage. Cela symbolisait la renaissance annuelle ou périodique de ce dieu comme esprit de la fertilité. » Donc, le culte de Dionysos, dans ce culte figurait un bébé dans un panier, un peu comme ce que l'on voit aujourd'hui. Et ce Dionysos n'était autre que Bacchus, sous un autre nom. Bacchus était le dieu du vin. En son honneur, les Grecs organisaient une fête appelée la fête du pressoir, à une époque qui correspond à nos mois de janvier-février. Et évidemment, on buvait beaucoup pendant cette fête. Aujourd'hui, vous le savez, plus de boissons alcoolisées sont consommées pendant la saison des fêtes, la période entre Noël et le Nouvel An, même un peu avant et un peu après. Il y a plus de consommation d'alcool pendant cette saison-là que pendant tout autre moment de l'année. Et c'est vrai certainement dans les pays occidentaux, mais c'est aussi dans beaucoup de pays, là où les Européens ont été, en Afrique, dans d'anciennes colonies en Asie, etc. Le réveillon de Noël est connu pour ses fêtes, disons pudiquement, bien arrosées, et assez souvent licencieuses, n'est-ce pas? L'autre symbole des célébrations du Nouvel An est tout aussi issu du paganisme ancien, c'est-à-dire la figure familière d'un homme aux cheveux blancs portant un faux, une faux. Que représente-t-il? Eh bien, l'ancien dieu grec Cronos. Cronos, d'où nous tirons des mots fréquents en français aujourd'hui, chronographe, chronomètre, chronologie. Cronos était le dieu du temps. Il représentait le temps, il mesurait le temps. Parmi les dieux grecs, Cronos avait à l'origine, il fauchait des sacrifices humains avec sa faux. avec sa faux aiguisée. Il était le faucheur silencieux qui récoltait des petits enfants, tout aussi bien que des adultes, d'horribles épisodes de cannibalisme mythique. Il mangeait ce qu'il fauchait selon les mythes. Ce rite grec de sacrifice humain, qui avait lieu pendant cette période-là, a été adopté par les Romains antiques, où le sacrifice humain a été pratiqué au moins jusqu'à 300 après Jésus-Christ. Donc c'est une pratique qui durait. Maintenant, tout ce que je vous ai dit là, probablement vous avez su au moins une bonne partie de ce que nous venons de voir et de lire ensemble. Beaucoup de gens le savent. C'est facile de trouver ses origines, maintenant très facile sur Internet. Il suffit de faire une recherche et dans 5 minutes, on a toutes ces données que nous venons de voir ensemble. Mais bon, c'est la coutume, tout le monde le fait, c'est pas grave, ça peut pas être si mauvais que ça si l'Église approuve, si l'Église a établi même la date. Ça doit être une fête chrétienne, là, quelque part, puisque les chrétiens approuvent. Est-ce qu'on devrait dire cela? Est-ce qu'on peut dire « ça n'a pas vraiment d'importance » Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a une importance aux yeux de Dieu de savoir si nous adoptons ou non des coutumes païennes de culte, puisqu'il s'agit de culte? Bien, considérons des passages dans la Bible. Jérémie, chapitre 10. Jérémie, chapitre 10. Verset 2. Jérémie, chapitre 10, verset 2. Jérémie, chapitre 10, verset 2. « Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations, et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. » Encore aujourd'hui, il y a des gens qui regardent le ciel, ils veulent voir leur horoscope. « Qu'est-ce que vous avez dit pour moi? L'avenir réserve quoi ?» Je me fais guider par les étoiles. Ça se faisait à l'époque, ça se faisait de tout temps dans les nations. Les nations en dehors de la nation qui a été guidée par Dieu. N'imitez pas la voix des nations. Et parmi d'autres, ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Là déjà, Dieu dit, il ne faut pas regarder d'autres religions, d'autres civilisations pour dire, mais comment est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils font à l'égard de leur Dieu? Comment est-ce qu'ils font à l'égard de leur culte? Moi, je veux faire de même, on va faire comme tout le monde. Jérémie a dit non, il ne faut pas faire comme cela. Il ne faut pas simplement dire, mais que font les autres, je vais faire pareil. Ah ben, la société va dans ce sens, on y va, je me laisse emporter. Un chrétien devrait chercher d'abord pour savoir ce que Dieu dit dans sa parole. Maintenant, je tiens à ajouter une précision ici qui est importante. Dans cette question de ne pas faire comme les nations, de ne pas faire comme les autres, nous devons garder l'équilibre. Nous devons comprendre que ce principe s'applique au culte surtout. Il s'agit de notre façon d'adorer Dieu. Ce n'est pas parce qu'une nation qui ne suit pas Dieu ou qui, dans un autre courant, fait quelque chose que c'est automatiquement à proscrire. Il s'agit de questions de culte, d'adoration de Dieu. Là, nous ne devons pas nous séparer de ce que Dieu nous dit dans la Bible. Nous devons nous accrocher à ce que Dieu nous explique dans sa parole. Nous ne devons pas dire comment ces nations ont adoré leur Dieu, moi je vais faire de même. Il ne faut pas participer. Mais au-delà des questions de culte, de notre relation avec notre Créateur, il faut réfléchir. Si une action n'est pas contre l'instruction de Dieu, même si cette action ou cette coutume existait chez des païens, ça ne veut pas dire qu'on doit l'éviter. Ce n'est pas parce que des Celtes portaient un pantalon que nous devons éviter le pantalon. C'est les païens qui portaient des pantalons. Non, le pantalon n'est pas mentionné dans la Bible, Dieu n'exclut pas, il n'a pas dit que c'est interdit ou qu'une sorte d'habillement est meilleur qu'un autre, pourvu que c'est honnête. Donc, on ne va pas proscrire le pantalon parce que les Celtes l'ont fait. Ce n'est pas parce qu'une autre civilisation qui ne connaissait pas Dieu portait une cravate qu'on doit s'arracher des cravates pour dire non, Les païens portaient des cravates, on ne peut pas porter de cravate. Là, il n'est pas une question de culte, pas une question de religion ou d'adoration de Dieu. C'est surtout là où il y a cette prohibition de ne pas regarder les nations pour dire « moi, je vais faire de même, je vais me conduire de cette façon-là ». Il s'agit de comment on adore Dieu et d'éviter le culte qui ne serait pas conforme à la Bible. Ça, c'est le point d'équilibre qu'il nous faut. C'est très important cela. Regardons Deutéronome chapitre 12. Deutéronome 12, verset 29 jusqu'au verset 32. Deutéronome chapitre 12, verset 29. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, et il a dit ceci à Israël juste avant leur entrée dans la terre promise, lorsque tu les auras chassées et que tu te seras établi dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu? Moi aussi, je veux faire de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car ils servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Et même, elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu, abomination devant Dieu. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. En matière de culte, Dieu nous donne tout ce qu'il nous faut savoir. Pour adorer Dieu, il nous explique les jours, les coutumes, ce qu'il faut faire, et nous ne devons rien retrancher, nous ne devons rien ajouter à cela dans l'adoration de Dieu. Nous devons avoir une attitude et une approche équilibrée sur ces questions. Ce n'est pas à nous de corriger quelqu'un parce qu'il va fêter la Saint-Sylvestre, ça c'est son affaire. Ce n'est pas à nous de corriger le monde, pas à nous de condamner quelqu'un. Les gens, ils participent innocemment, le plus souvent ils ne savent pas ce que dit la Bible là-dessus, ils ne connaissent pas le vrai Dieu finalement. Un jour, ils le connaîtront, Dieu les aime, il va les appeler en leur temps. Mais pour le moment, le voile est là, ils ne comprennent pas. Ce n'est pas à nous d'essayer de corriger quelqu'un ou de lui expliquer contre sa volonté la vérité à propos de ces éléments. Maintenant, poursuivons et posons une question annexe. Quand Dieu commence-t-il la nouvelle année? Si le nouvel an n'est pas le 1er janvier, d'après Dieu, ça doit tomber quand? Eh bien, les révolutions de la Terre déterminent la durée d'un jour. Les phases lunaires indiquent la durée d'un mois. Et l'orbite de la Terre autour du Soleil dicte la durée d'une année. Et Dieu a créé la Terre, la Lune et le Soleil. Et il explique dans sa parole, il a déjà décidé de la date du début du nouvel an, de la nouvelle année. L'année civile sacrée, pardon, de Dieu, commence au printemps, pas au milieu de l'hiver. Et c'est plus logique. Au printemps, la vie reprend, il y a de la verdure de nouveau après le temps mort de l'hiver, la vie reprend. C'est là où Dieu a établi le nouvel an. Regardons Exode chapitre 12. Exode 12, verset 1. Exode chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Et si vous allez plus loin, dans le chapitre 12, vous allez voir qu'il est question de l'institution de la Pâque. Le mois de la Pâque, ou le mois dans lequel tombe la Pâque, c'est le premier mois de l'année. Et nous pouvons donc savoir quel est le nouvel an selon l'Éternel. Ça tombe une quinzaine d'années avant l'institution de la Pâque. Le premier mois du calendrier sacré de Dieu est appelé dans la Bible Abib. Abib, ça veut dire, en hébreu, ça a la signification des épis verts. Quand on voit la verdure qui recommence, ça c'est le premier mois de l'année. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que plus tard, après leur captivité en Babylone, les Juifs n'ont plus appelé ce mois Abib. Ils ont commencé à l'appeler le mois de Nissan. Nissan, c'était le mot babylonien pour ce mois. Et ils ont adopté, puisqu'ils vivaient dans le milieu babylonien, ils ont commencé à adopter des aspects de leur calendrier. Ils n'ont jamais perdu de vue comment compter les jours et les mois selon la manière de Dieu, mais ils ont adopté la nomenclature du calendrier babylonien. Ils vivaient dans ce système, ils étaient obligés pour fonctionner de se servir de leur calendrier. Tout en gardant à l'esprit, pour le calcul des fêtes, le calendrier sacré que Dieu avait institué. Regardons Exode chapitre 34, Exode 34, verset 18. Exode 34, verset 18. Dieu leur dit, « Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé par Dieu, dans le mois des épis. » Maintenant, beaucoup de traductions, la plupart en anglais, et même beaucoup en français, traduisent, ils mettent « Abib » plutôt que la signification d'Abib. Ils mettent le mot en hébreu « Abib ». Vous pouvez regarder la version Darby, Jérusalem, il y en a beaucoup d'autres en français qui mettent « dans le mois d'Abib ». Monsieur Segond a choisi de donner la signification de ce mot, le mois des épis verts. Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans le mois des épis que tu es sorti d'Égypte, le mois d'Abib. Ça, c'était le vocabulaire employé pendant le temps de Moïse. On parlait d'Abib, le mois des épis. Mais c'est intéressant, même dans la Bible, on trouve que après la captivité des Juifs en Babylone, ils avaient adopté le nom pour ce mois, le nom babylonien, Nissan. Et là, nous avons, par exemple, regardez Néhémie, chapitre 2. Néhémie, chapitre 2, verset 1. Néhémie, chapitre 2, verset 1. Néhémie a écrit... Au mois de Nisan, le 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence et le récit se déroule. Mais notez que Néhémie l'appelait le roi de Nisan. Ça, c'était le vocabulaire babylonien. Les Juifs avaient été parmi les Babyloniens pendant 70 ans. Ils étaient obligés pour se faire comprendre. Ils ne pouvaient pas dire, eh ben, pendant le 14 Abib, on va faire ceci ou là. Les Babyloniens auraient dit, mais c'est quoi ça, Abib? Ah ben, c'est Nissan. Ah, d'accord. Donc, ils étaient obligés de s'arranger pour utiliser le calendrier, la nomenclature du peuple là, pour se faire comprendre et pour fonctionner. Et vous trouverez le même mot Nissan en Esther, chapitre 3, verset 7. Et ce n'était pas mauvais. Ils gardaient à l'esprit les jours saints, et il est calculé comme Dieu l'avait dit, mais s'il vivait parmi un peuple qui avait un autre calendrier, une autre façon d'appeler les mois, eh bien, pour se faire comprendre, ils étaient obligés de l'utiliser. Nous sommes un peu dans la même situation. Nous gardons à l'esprit le calendrier sacré, mais nous vivons dans une société qui utilise un autre calendrier. Ce n'est pas une idolâtrie de parler de moi en utilisant des noms que les gens vont comprendre. C'est simplement une façon de fonctionner. Ça, c'est pas une idolâtrie. Nous gardons à l'esprit, tout en disant janvier, février, mars, avril, etc., nous gardons à l'esprit que c'est le mois d'Abib ou Nissan pour calculer les fêtes de l'Éternel. Il y a deux calendriers à l'œuvre, comme ce fut le cas à l'époque de Néhémie, d'Esther, etc. C'est au mois d'Abib ou Nissan que Israël est sorti de la captivité égyptienne sous Moïse, comme nous le savons. Le mois hébreu Abib chevauche les mois de mars-avril sur le calendrier romain que nous employons aujourd'hui, grégorien. Et Dieu a placé le début de son année sacrée au début de printemps pour marquer le début des récoltes saisonnières. Deux récoltes annuelles en Terre Sainte préfiguraient le plan de Dieu pour la double récolte spirituelle des enfants à naître dans son royaume. La Bible nous donne un aperçu également d'un grand faux système religieux qui pensera changer les temps et les lois. C'est Daniel qui en parle dans Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. Verset 23. Je vous ai parlé de ce chapitre il n'y a pas si longtemps. Daniel chapitre 7, verset 23. Il me parle ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, d'après leur manière. Il sera différent des premiers. Il abaissera trois rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Et je vous ai expliqué récemment qu'il s'agit du cycle de la semaine. On voudrait mélanger ça pour cacher la vérité à propos du sabbat. Mais il y a un autre calendrier qui était imposé également. Nous pouvons nous en servir pour fonctionner dans la société, mais nous ne devons pas participer aux célébrations de culte qui tombent parmi ce calendrier, comme Noël, comme le jour de l'an, etc. Ce système, établi par ce quatrième animal, a délibérément pensé changer le début de l'année civile pour tenter de cacher son plan, puisque le calendrier de Dieu met l'accent sur les deux récoltes. Et les deux récoltes nous font penser à ce que Dieu fait sur le plan spirituel pour sauver l'humanité. Et quand nous avons un autre calendrier qui est imposé, eh bien, ça mélange, ça rend beaucoup moins clair, ça cache carrément ces vérités-là. Comme j'ai dit, se servir du calendrier romain n'est pas interdit. Tout comme les Juifs devaient fonctionner en Babylone, nous devons fonctionner dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mais nous ne devons pas participer au culte de faux dieux qui tomberaient des jours qui ne sont pas des jours saints selon Dieu. Célébrer une fête d'origine liée au culte de faux divinités marqué par ce calendrier, ça c'est autre chose. En fait, Jésus-Christ a prié son Père de veiller sur ses disciples qui allaient être dans le monde sans être du monde. Et c'est encore notre cas aujourd'hui, comme ce fut le cas des Juifs en Babylone. Ils étaient en Babylone, mais sans être de la nation de Babylone. Rappelons-nous ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, pardon, Jean chapitre 17, j'aurais cherché longtemps dans Jean 7, Jean 17 verset 11. Jésus dit ici, « Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Verset 15. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » C'est la même situation pour nous, comme pour les Juifs du temps de Néhémie à Babylone. Ils étaient dans cette société, mais sans vraiment faire partie de la société. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne voulons pas être du monde. Et nous devons donc maintenir en équilibre dans cette situation. Nous devons fonctionner dans le monde, nous devons y vivre, mais sans faire de compromis concernant notre façon de vivre, notre comportement ou notre dévouement à Dieu, notre culte à l'Éternel. Nous ne devons pas, nous le savons, mais je le répète, c'est important, nous ne devons pas approcher ces questions avec une attitude de supériorité ou de condamnation envers d'autres personnes, mais plutôt en toute humilité. En toute humilité. Si nous comprenons ces choses, si nous comprenons ce que nous regardons dans la parole de Dieu aujourd'hui, c'est uniquement parce que Dieu nous les a fait comprendre, non pas à cause d'une quelconque valeur, intelligence de notre part. Dieu nous a révélé ces choses et il va les révéler à tout le monde un jour. Pour le moment, il commence avec les petits du monde, les choses qui ne sont rien. Et ça, c'est nous. Le nouvel an a les mêmes origines que la fête de Noël, autant de fêtes d'origine païenne, comportant des coutumes tirées directement du culte païen. Dans le temps d'Élie, le prophète Élie avait un problème d'idolâtrie. Israël avait un problème d'idolâtrie à son époque. L'idole, le faux dieu à l'époque, était Baal. Je vous ai déjà parlé de Baal dans d'autres sermons, mais le culte de Baal était un culte de syncrétisme. Syncrétisme qui veut dire mélanger plusieurs cultes, plusieurs religions. Ils adoptaient des aspects d'autres cultes dans leur culte. Selon la diction biblique de Harper, le syncrétisme veut dire soit une combinaison consciente de deux ou plusieurs religions sur une courte période de temps, soit un processus d'absorption par une religion d'éléments d'une autre sur une longue période de temps. Dans les deux types, les éléments absorbés sont généralement transformés et changent de signification dans le nouveau contexte. Ce système, le syncrétisme de Baal, adoptait allègrement des principes ou des dieux ou des divinités ou des croyances d'autres cultes dans leur panthéon, dans leur façon d'adorer. Rappelons-nous l'exemple dans 1 Roi, chapitre 18. 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 19. 1 Roi 18, verset 19. Élie veut clarifier la situation pour les Israélites concernant le culte de l'Éternel et le culte de Baal. Parce que les prêtres de Baal, les sacrificateurs de Baal, ils voulaient tout mélanger. Mais bon, c'est pas la peine, venez avec nous, on accepte ce que vous dites aussi, on va le mélanger avec notre façon de faire. Alors, Élie dit, verset 19 de 1 Roi 18, « Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand boiteriez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Et notez la réaction des gens qui étaient là. Le peuple ne lui répondait rien. Pourquoi? Parce que eux, ils ne voyaient pas la nécessité de changer. Pour eux, ce n'était pas l'un ou l'autre, ben on pouvait faire les deux. On fait un mélange de tout et puis on continue comme ça. On garde les parties qu'on aime de ceci, surtout les festins, hein, l'alcool, etc. Tout ce qui allait avec le culte de Baal. Ils ne voulaient pas se séparer de ça. Ce sont des cultes très charnels. Le peuple ne lui répondit rien. Il ne voyait pas le problème. Et la suite de l'histoire, ici, dans 1 Roi 18, c'est pour montrer que l'Éternel n'acceptait pas le syncrétisme. On ne pouvait pas mélanger un peu de ceci avec son culte à lui. C'était l'un ou l'autre, exactement comme Dieu avait dit. Il faut choisir l'un ou l'autre. Selon la diction biblique de Hastings maintenant, avec Achab, une nouvelle phase émerge. Le Baal, dont le culte qu'il avait établi, était Melkar, le Baal de Tyr. et vous trouvez ça dans 1 Roi 16, verset 32. Nous avons ici une instance d'un Baal local vénéré dans un pays étranger. Le culte de Baal avait des divinités localisées, le Baal de ceci, le Baal de cela, le Baal de Melkar, etc. Comme certaines religions le font encore aujourd'hui. Le culte de Melkar n'était pas destiné à remplacer le culte de Jéhovah, mais à coexister avec lui. Il ne voulait pas le remplacer, il voulait simplement tout mélanger, mêler le tout. Et lui imposa à l'esprit populaire la conviction que Jéhovah et Melkar étaient mutuellement exclusifs. Il faut choisir où c'est l'Éternel, ou c'est Baal, mais vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Dieu n'accepte pas le syncrétisme, et c'est ce que Élie a dit. Pas de syncrétisme, choisissez. Choisissez l'un ou l'autre, mais on ne peut pas faire les deux. Quand l'Éternel a donné les 10 commandements en Exode 20, le premier commandement était « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Et littéralement, ça veut dire « tu n'auras pas d'autre Dieu sous mes yeux » ou « tu n'auras pas d'autre Dieu à côté de moi ». C'est-à-dire que non seulement il fallait adorer Dieu, mais il ne fallait pas adorer Dieu et un autre Dieu. C'est l'Éternel exclusivement. On ne peut pas mélanger les pratiques d'autres cultes dans le culte de l'Éternel. Il n'accepte pas. Il ne veut pas le mêler à un système de culte syncrétiste. Où Dieu serait intégré, l'Éternel serait intégré avec Baal et Melkar et le reste, tout le Panthéon. Jésus a dit, au contraire, dans Jean chapitre 4, Jean chapitre 4, verset 23, Jean chapitre 4, verset 23, il a dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. En vérité, ça veut dire sans qu'il y ait du faux mélangé dedans. On ne peut pas baptiser une fête païenne et dire « maintenant c'est l'honneur du bébé Jésus ». Maintenant c'est en l'honneur du nouvel an, maintenant on célèbre le passage d'une autre année. On ne peut pas adopter les choses qui sont d'origine païenne et puis les baptiser, entre guillemets, et les transformer en autre chose. Voilà, frères et sœurs, nous voulons donc éviter de participer dans les fêtes de fin d'année. Nous pouvons évidemment noter le passage d'une année romaine. C'est pas, on nous tourne le passage, nous employons le calendrier pour ce qui est nécessaire. Nous pouvons noter le passage d'une année. Nous employons ce calendrier. Comme les Juifs, comme nous avons vu, Esdras employait le calendrier babylonien quand il y était. Il y a des exemples bibliques pour faire cela. Mais, tout en reconnaissant cela, nous voulons adorer Dieu dans la pureté et dans la vérité. Et ne permettre à rien de venir mélanger notre culte, comme Dieu l'a dit. Il a dit exactement ce qu'il faut faire. Il ne faut rien ajouter, il ne faut rien retrancher. Et c'est ce que nous voulons faire. Éviter tout mélange avec des vestiges de faux cultes orientés vers de faux divinités. Alors, frères et sœurs, soyons certains d'adorer Dieu en esprit et en vérité.